Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024. Vous écoutez le 14e épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde de la FM. Animée par toute l'équipe de Sneakers Empire qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
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 Shoes. You sure it's not the shoes?
Do you know? Do you know? Do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
Yeah. If you know how I do.
Yo, what up? This is A1, and I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right.
Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Bienvenue dans le P14 de la saison 8 de Sneak On Air. Aujourd'hui, nous accueillons pour ce 14e épisode Pierre Demoux, auteur du livre L'Odyssée des Sneakers. Ravi que la culture sneakers s'invite en librairie avec une œuvre qui retrace l'incroyable voyage de ses chaussures emblématiques. Des terrains de sport au podium de la Fashion Week, en passant par les ghettos de New York ou les immenses usines asiatiques. Encore une innovation, marketing, succès phénoménaux et échecs cuisants. Ce livre explore chaque facette de cette culture. Alors, à toutes et à tous, bienvenue dans ce 14e EP de la saison 8 de Sneak On Air, là où la culture se vit en basket. Au programme pour ce 14e épisode, notre traditionnel, qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio? Un peu d'infos, d'actu autour des baskets et de la basket qui sortent dans la semaine. Et nous aurons, pendant cette heure passée ensemble, le plaisir de recevoir Pierre Demoux, qui est déjà en ligne. On va très très vite le faire basculer à l'antenne, mais cette émission ne serait rien sans tous mes potos, tous mes acolytes accrochés au livre de Pierre ou à leur écran de téléphone. Ils sont là, ils sont dans la place, les micros sont ouverts. On a Manu Funky P, the grey man today, tout de gris vêtu, beau gosse. Exactement. Comment ça va, Manu?
Ça va très bien, et toi? Justement, les micros ne sont pas tout ouverts, ils sont tout noirs. Moi je suis tout gris, un peu noir aussi.
C'est voilà. Pas mal.
Super le jeu de mots du soir, bonsoir.
Tu vas bien, Manu, t'as la forme?
Écoute, grosse journée au boulot.
Ouais, hein, ouais. C'est la grosse période.
9h30, 19h30, ça m'a un peu calmé là. Mais ça va, je suis au top.
Mais ça va, tu es accompagné juste à côté de toi. C'est son retour, je crois qu'on l'a pas vu pendant 15 jours, on n'a pas eu ce plaisir.
3 semaines, je crois.
3 semaines, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça m'a manqué. C'est Ghislain qui est là dans la place. Salut Gis.
Hello.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va tranquillement.
Ouais.
Un peu fatigué, surmené, mais bon.
Et c'est la fin de l'année là.
Voilà,
on tous attendent le printemps, mais peut-être même qu'on attendra les soldes, parce qu'il y a pas mal de trucs qui risquent de tomber au sol.
Oh oui, je les
vu
attends.
Les gros flops.
Ouais, je les attends
vu
avec impatience.
Les gros flops. Il fait vivre la story sur Sneaker 67 Empire. Il va vous dire bonjour au micro. C'est Jaime qui est dans la place. Salut Jaime.
Yeah, 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 yeah.
Yeah. Comment tu
salut
vas?
Salut Nico, hein, comme d'hab. Hein. Ouais. T'es dédicace.
Mais ça rend bien. Hein.
Ouais, c'est cool.
T'as
ça
la forme, Jaime?
Ouais, ça va. Je te remercie, Alex.
Moi, je suis très content. Et normalement, si j'ai tout bien fait au plan technique, je crois que Pierre est en ligne avec nous. Salut Pierre.
Salut Alexandre, oui, je suis bien là.
Ok, ça marche. T'as dû nous entendre apparaître dans ton téléphone dès que j'appuie sur le petit bouton. Tu as la forme, Pierre?
Ça va bien, merci. Salut à tous, à toute l'équipe et à tous les auditeurs.
Ben voilà, on a Jaime avec nous qui fait vivre la story. On a Ghislain en face de moi et juste à côté de Ghislain, on a Manu qui est dans la place. On est ravis d'être avec toi pour cette heure d'émission. Tu nous as dit que tu étais d'accord de la passer en entier avec nous. Comme ça, tu pourras participer, donner ton avis aussi. Et ton avis de journaliste nous intéressera sur un peu les actus autour de la basket qu'on a relevé. Mais je ne sais pas si tu sais, on a toujours l'habitude de commencer notre émission de radio par raconter ce qu'on porte. Alors toi, t'es peut-être à domicile, t'as tout à fait le droit d'être en pantoufles. D'ailleurs, en Alsace, on appelle ça des schloppes. T'as tout à fait le droit d'être en schloppes ou en claquettes. Mais nous, on va parler des baskets qu'on porte. Et je vais poser tout de suite cette question à Ghislain. T'es venu chausser de quoi ce soir ?
Alors aujourd'hui, j'ai mis une paire que j'avais pas mis depuis très longtemps. Ma petite paire de Air Jordan 1 Mid, triple black. Que ouais, j'avais pas mis depuis longtemps parce qu'elles sont légèrement déformées, mais je les ai ressorties il y a peu et ça fait du bien parce qu'elles me manquaient.
Ah, voilà. Et t'assumes de porter des mids?
Ouais, totalement. Ouais, moi, je suis, comme Manu dirait, je fais partie du marché européen. Pour moi, c'est la
français,
mid.
Français.
Ouais, c'est très français. En plus. Ouais, c'est très français, la mid. C'est très français. Donc, full noir.
Ouais, triple black, full noir. Full
très
black.
Classe. Très classe. En plus, Pierre, je sais pas quel temps il faisait du côté de chez toi, mais ici, il pleuvait, donc fallait plutôt une paire qui puisse passer sous la pluie.
Ouais, c'était exactement le même temps ici, donc je valide.
Tu valides. Ça marche. Allez, on va demander à Manu, et je crois pas avoir vu de quoi il était chaussé. Ah, ouais, si, j'ai vu ça ici, de loin.
C'est une paire que j'ai depuis longtemps, je crois que je l'ai achetée en 2011. C'est une Skyforce Low en collaboration avec Mighty Crown, qui est de mémoire un label ou un collectif de street art, je ne sais plus exactement. Et elle a la particularité d'être en 3M un peu partout, avec des motifs croco et une semelle transparente. Donc ouais, c'est une paire assez particulière. Ah oui, et il y a un lacet qui me fait penser à des fils d'aluminium, tu sais, un peu comme dans les circuits automobiles là, ouais, en dessous de la voiture.
Ouais. Tout voilà. À fait. Et donc en 2011, il y avait déjà des collabs en 2011.
Il y avait déjà des collabs en 2011. Ouais.
Beaucoup plus réduites, peut-être moins marketées, et surtout elles avaient peut-être pas mal de sens.
Ouais, et puis t'avais, c'était exceptionnel un petit peu. Tu sais, t'avais ce truc de c'est spécial. Tu connais ta paire de Skyforce, là tu la redécouvres un petit peu quoi.
Génial.
Ouais, à l'heure actuelle, en parlant des collabs, c'est vrai que là ça fait 3 semaines que j'étais pas là, mais je suivais un peu quand même l'actu. Franchement,
sinon, on t'accepterait plus, Ghislain.
Franchement, j'ai dû voir, sans me tromper, peut-être une vingtaine de collabs en 3 semaines, quelque chose comme ça. Bon, il y en a à tout va, en fait.
Ouais, t'as l'impression qu'il faut faire de la collab.
Ouais. Ben ouais, on dirait qu'il n'y a plus que ça, et c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière en taclant un peu Nike, que à un moment, on commence un peu à être saoulé. Et ça.
On n'est plus intéressé, quoi, en fait.
Ouais, je trouve que ça. Enfin, trop de choses sur le marché. Ghislain, tu veux. Pardon, pas Ghislain, mais Ghislain nous a dit ce qu'il portait. On va demander à Jaime ce qu'il porte et on passera un micro à Eric, peut-être juste avant qu'il parte. Tu veux passer tout de suite, Eric, qu'on ne te mette pas en retard ?
Comme ça, tu t'entraînes. Donc, ouais, moi je porte comme d'hab une Air Max 1 de chez Nike, un modèle GR simple avec le souche en vert.
Ouais, vert émeraude un peu.
C'est ça, exactement.
Un petit Tiffany presque.
Ouais, son petit nom c'est Stadium Green.
Ouais. Très chouette.
Easy shoes.
Easy shoes. Et toi, notre ami Tweedle qui, fait son mix juste avant nous.
Moi j'ai changé de slap. Ouais. moi j'ai des. C'est quoi des Airfly 89?
Exactement.
C'est ce qu'il y avait en tout cas sur la boîte. Donc,
Airfly 89, modèle porté, je crois, par Scottie Pippen avant la uptempo. Ouais,
gros rebondeur.
Ouais, et on a une semelle de Jordan 4, si je dis pas de bêtises, sur la Airfly.
Possible. Hein.
Ouais, c'est possible. Faut que tu montres à Manu, mais moi je crois bien que c'est une 4 ou c'est une semelle de Air Tech Challenge.
C'est totalement une 4.
C'est une 4.
Ouais, ouais.
Voilà, magnifique, avec un peu de bleu, n'est-ce pas?
Ouais, exact.
Il dirait limite la militarité.
Je me respecte, tu vois, c'est
presque,
ça le truc.
Ouais.
Non, en même temps, je me demande si je dois pas changer de créneau horaire, parce que je commence à...
Il y a une petite influence là.
Il y a un petit truc.
Tu débordes.
C'est pas bon, tu vois, il faut que je change de jour, je crois.
Sneakers Empire s'engage à être ton personal shopper. En sneakers.
Bonne soirée, merci.
Merci Eric, on te retrouve la semaine prochaine. Hyper Connection, 18h, 20h.
Et toi Alex, qu'est-ce que tu portes?
Ah, on va demander à Pierre, puis je finirai si t'es d'accord, Jaime.
Oui, bien sûr.
Pierre, tu portes quoi?
Alors, pour être tout à fait honnête, actuellement, je suis en schloppe. Je sais pas si
yes,
on dit bien comme ça.
En schloppe, ouais, ouais, en schloppe.
En schloppe. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai porté une paire d'une petite marque française qui s'appelle 0105.
Ok.
Je crois que le modèle exact, ça doit être Hazelman White Blue, il me semble. Et voilà, c'est une jeune marque que j'ai découvert, en fait, il n'y a pas très longtemps. Très classique, sur, ouais, sur le style, vraiment sneakers voilà, à l'ancienne, un peu dans l'esprit un peu des campus, avec un peu de okay. dédain, tout ça, enfin, mais très cool, voilà.
C'est quoi le nom de la marque, tu nous as dit ?
0105.
0105.
Ok, je connaissais ouais. pas.
Très bien. Et ben, merci beaucoup, hein. Tu nous en diras peut-être plus tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette paire ?
J'aimais bien le look classique, en fait. Et puis, voilà, il y a un mix à la fois de... Bah, c'est dominante blanche, petite mm-hmm. touche de bleu, voilà, ça fait... Voilà, moi, je suis assez classique voilà, dans mes choix. Donc, voilà, je trouve que ça se marie bien avec une tenue pour aller bosser. Jean, voilà, petit pull, voilà. Vraiment très, très classique.
Très classique. Ben, on porte ce qu'on est, on porte ce qu'on aime, c'est très important. Et moi, ben, en fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti de ma petite collection. Et là, poussé sans doute par le marketing de Nike autour des dernières collabs avec Cortez, qui a sorti une Air B-Ball URH, hein, une Nike Air URH B-Ball. Et c'est celle que je porte qui a été faite en collaboration pour les JO, mais je crois qu'il y a 8 ans. Faut que je re-regarde la date et on retrouve le logo New York City à l'arrière. Et elle a la particularité d'avoir une semelle de contact glow in the dark qui est fluorescente la nuit. Et on est sur un modèle full gris, vous allez le retrouver dans la story de Jaime. Et je pense que ça pourrait être c'était une inspiration pour la dernière collab Cortez sur ce même modèle. Mais lui, ils avaient mis un chausson URH un petit peu camo qui était assez réussi. Ça vous va pour le qu'est-ce qu'on porte ?
Yes.
Et ben voilà, encore quelques secondes, Pierre. On va juste se faire un peu d'auto-promo. Et notre ami Krish, qu'on embrasse fort, a aussi prévu un petit visuel qui va être poussé dans la story. Parce que le 26 décembre, notez bien cette date pour vous, Strasbourgeois, et ceux qui veulent se déplacer. Nous organisons pour la 7e année quasiment consécutive notre grande soirée Breakdown avec du hip-hop old school 90. 2000, un line-up de folie avec DJ Stan Smith, DJ Brown, DJ Timal, DJ Bad qui seront là pour vous faire danser que sur du vieux son old school. Vous pouvez d'ores et déjà sur Hello Asso acheter vos préventes limitées aux 200 premières places au prix de 10€. Après ce sera 12, mais ne vous inquiétez pas, si vous vous décidez au dernier moment, vous pourrez venir et vous aurez une caisse du soir, sans doute tenue par le stagiaire préféré de RBS qu'on va encore une fois de plus exploiter. C'est la promo Breakdown, s'il vous plaît, venez kiffer avec nous, venez avec vos belles baskets parce qu'on respecte les baskets.
Exactement, j'allais le dire. Ouais.
Vas-y, tu peux en parler.
On respecte les paires des gens, on se marche pas dessus. Ah oui, alors à partir d'une certaine heure, ça peut-être que voilà, il y aura
un petit peu
moins
plus difficile,
de, voilà.
mais
on va le rappeler avant que ce soit trop tard. Prenez vos préventes. Il y aura une caisse du soir, oui, mais prenez vos préventes parce que on n'est pas à l'abri que ce soit plein et qu'on ne puisse plus laisser rentrer personne.
Ce qui a été le cas l'année dernière.
Exactement.
Au Peak Time.
Comme c'est un peu la plus grosse soirée de l'année à Strasbourg.
De cette fin d'année, en tout cas.
Voilà. En toute modestie.
Bien voilà. sûr.
Bah, dès qu'il y a RBS ou Sneakers Empire en soirée, tu sais très bien que. Voilà. Ouais. Et vous êtes tous les bienvenus, sauf Joser. Voilà.
C'est placé.
C'était placé. Important.
Et en plus, votre ticket d'entrée vous donne droit, comme un accès à une tombola. Vous pourrez gagner, grâce à nos sponsors, 7 vies, des cadeaux de la part de cette marque 7 vies exceptionnelle. Et aussi un bon cadeau chez nos amis de basket 4 Ballers qu'on embrasse très très
oui.
fort. Voilà pour l'auto-promo et on va attaquer avec la première actu que vous avez dû passer, peut-être toi aussi Pierre, c'est que maintenant, depuis peu, les fans d'Apple peuvent désormais acheter ou connaître l'emoji de la chaussure course iOS en tant que produit réel. Il y a quelqu'un qui l'a réalisé. C'est un clin d'œil directement au père que portait Steve Jobs. Et c'est ainsi qu'on en a fait tout d'abord un emoji qui représente clairement Apple et Steve Jobs au à la gueule d'une New Balance, si je dis pas de bêtises, 574.
Je connais pas les rêves chez New Balance, mais...
Ouais, hein, ouais, j'ai aimé,
c'était ça, ouais.
La New Balance classique, quoi.
Voilà, la Dad Shoes. Mmh. Et là, ben, c'est un artiste qui s'est clairement inspiré du design. On retrouve pas le N sur les côtés, mais on retrouve vraiment ce petit design et un gros clin d'œil à Apple autour de tout ça. C'est Joss Wong qui s'est inspiré d'une approche d'Apple avec cette emoji. Et le créateur, donc, c'était New Balance, Stephen Smith, dont on parle de temps à autre, ben, il a un petit peu tweeté, il était pas très ravi. Alors,
ça ressemble à un truc que je connais, il a dit.
Ouais, exactement. C'est exactement ça, et je crois qu'il s'est placé en tant que génie derrière ou quelque chose comme ça. Pierre, t'as vu passer cette info ?
J'ai pas vu, pour être honnête, mais je trouve ça marrant, ouais, que ça devienne un emoji à ce point-là.
Bah ouais, et je trouve que ça reflète aussi, et c'est, on va zoomer dans la deuxième partie sur ton bouquin, et tu nous parleras de ton historique par rapport à la sneakers, mais on voit vraiment que cet objet est en train de se répandre dans toutes les sphères, et on en fait un clin d'œil dans toutes les sphères, et aujourd'hui même dans tes émoticônes, moi je les appelais encore comme ça, ouais, tu vas pouvoir retrouver cette basket qui est clairement affiliée à Steve Jobs.
Et sa tenue.
Et sa tenue,
fétiche,
bien sûr.
Quoi, on va dire.
Alors, je sais plus si. Vas-y, Pierre.
Ouais, non, je voulais savoir, bah, vous qui savez mieux que moi, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui sont comme ça déclinés en emoji à votre connaissance ?
Non, alors. Il y en avait qu'une, et selon Android ou iOS, elle était plus ou moins bleue, mais cette deuxième sneaker est apparue en gris, et celle-là, clairement, elle n'existait pas. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas des milliards. Par
ouais,
contre,
parce que sur le mien, regarde, moi j'ai celle-là. Je sais pas si tu vois là, d'ici. Non,
en fait, pour lire le script, ouais, c'est celle-là que j'ai sur Android.
Ouais, c'est la même. Ouais.
Et en fait, selon les marques, Android et iOS, t'as pas toujours les mêmes émoticônes. Mais ça me fait quasiment penser, on en a parlé la semaine dernière, toi t'as dû le voir passer, Pierre. C'est comme les baskets Nike qui sont proposées aujourd'hui dans Fortnite. Ouais. Là, on a carrément toute la gamme des prochaines baskets, des baskets qui viennent de sortir. Et on sent que c'est un objet qui se répand partout et que tous les vecteurs qui peuvent porter aussi la marque vont être utilisés comme sur Fortnite avec les concerts de Snoop Dogg. Je crois qu'il y en a eu un.
Oui, c'était là.
Snoop Dogg, ouais. Spice. Non, c'était pas Snoop Dogg, c'était encore une autre fois. Enfin, c'était avant.
C'était là.
Oui, il était là jeune. Hein.
Quelques jours.
Oui, c'était samedi soir. Snoop.
Encore
ouais, parce qu'il faisait la promo de son nouvel album qui sort
le 13.
Deux semaines, voilà, le 13, c'est ça. Et il était en concert avec. Il n'était pas tout seul, il était avec quelqu'un d'autre. Mais c'était là, oui, c'était samedi, je crois. Samedi ou dimanche.
C'était samedi la mise à jour.
À nouveau pour Fortnite.
Ouais. Et il a explosé les records de joueurs simultanés pendant qu'il faisait le concert. Il a fait plus que Travis Scott, qui était le premier, je crois.
Ouais, pendant c'était le confinement, ça. Hein. Ouais.
Ouais, c'est un délire en fait, c'est ça. Comme tu dis, il y en a partout. Du dire de payer. C'est quoi, je crois, c'est 10$ la paire dans le jeu.
Ouais, ou un certain nombre de V-Bucks. Ouais.
C'est des V-Bucks. Et si tu fais le ratio avec l'euro, ouais, t'es à 8 ou 10 balles quoi.
Ouais, c'est. Franchement, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup.
Et ça marquait de nos enfants.
Nike, ouais. Ils ont été très très forts sur ce coup.
Et Pierre, peut-être que je me trompe, je lis un peu tous les jours sur les baskets et je ne sais plus si c'est dans ton livre ou dans un article que j'ai loué, mais est-ce que dans ton livre, tu ne fais pas un zoom sur le style un peu de Steve Jobs et le style de la Silicon Valley qui a quand même introduit de plus en plus les baskets, le jeans et le sweat?
Ouais, exactement. En fait, j'ai fait un petit focus là-dessus puisque dans les années 90, c'est un peu la Silicon Valley qui a introduit le concept du casual Friday,
ouais.
Où on se permet de mettre des baskets pour aller au boulot avec son jean ou voilà la tenue un peu à la Steve Jobs. Et clairement, lui, Steve Jobs, il a popularisé les New Balance à un niveau énorme. Et autant au début, il était vraiment moqué en mode. La socio, c'est vraiment la dad shoes par excellence.
Ouais, je m'en rappelle aussi.
Il
n'y
a pas trop d'intérêt, ouais.
Que ouais, tout le monde vraiment rigolait de lui avec son style. Ouais. Et
là, dans l'article que j'ai, il disait qu'il portait plutôt une 991 ou 92.
Ouais, et du coup, maintenant, c'est devenu super, super tendance. Et c'est là où c'est marrant, c'est qu'il y a vraiment. On voit les modes évoluer. Et le ringard d'il y a 20 ans est en train de devenir le super tendance d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais au collège, porter des New Balance 990 ou autres.
C'était la honte.
Ouais, c'était pas ouf, quoi.
Et si, vu que tu t'es renseigné un peu sur le sujet, est-ce que tu sais que, s'il y a eu un événement qui a fait un peu vriller l'opinion publique, on va dire, qui sont passés de « Oh, en fait, c'est nul » à « Ah non, mais en fait, les New Balance, c'est un peu stylé quand même, nanana. »
Bah, c'est, en fait, c'est l'iPhone, c'est la révolution de l'iPhone. C'est, parce que Steve Jobs, il faisait toutes ses conférences avec quasiment la même tenue. Le pull à col roulé, voilà, le jean, le vieux jean un peu élimé, les New Balance grises. Et quand, voilà, dans les débuts des années 2000, quand il y a la révolution de l'iPod, puis de l'iPhone, Apple devient la grosse marque populaire à travers le monde. Et donc lui, comme il symbolisait vraiment Apple, c'est devenu une sorte de gourou, pas forcément pour le style, mais vraiment pour le côté « je montre à quel point je suis cool, je suis dans la tendance de la Silicon Valley ».
Et les gens, du coup, font comme lui. Ils décident « voilà, je vais porter les mêmes chaussures ».
Bah, en fait, ça démocratise.
Ouais.
Ça démocratise. Et moi qui suis dans des fonctions plutôt RH dans mon travail, tu sens que la Gen Z, pour reprendre les on embrasse Krish là, aujourd'hui un jeune a envie de devenir comme il est. Il a envie d'être embauché dans une boîte dans laquelle il partage des valeurs. Et ils ont de moins en moins envie de se travestir. Ouais. Un jeune de 23-24 ans, quand bien même il rentre chez KPMG ou chez EY, il a du mal à porter les vieux costumes bleu marine, gris qu'on portait à l'époque avec une cravate. Et d'ailleurs, la tenue ne fait pas la compétence et la compétence ne fait pas forcément la tenue. Donc je pense que c'est ces deux vecteurs qui font qu'aujourd'hui, on peut venir habiller de plus en plus casual au travail. Et je crois que c'est dans ton livre que tu dis qu'au final, le Casual Friday, ben, c'est quasiment étendu sur la semaine, Pierre.
Ouais, c'est devenu maintenant, c'est plutôt l'inverse. On s'habille bien de manière plus exceptionnelle et on vit un peu comme on est dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est un peu ça.
Ouais, c'est clair. Bah, ça montre une plus grande tolérance, une plus grande ouverture d'esprit. Et après, c'est très américain. Hein. Chez les Américains, contrairement à la France, tu vois, en style managérial, t'es pas obligé d'être le premier au boulot et t'es pas obligé d'être le dernier à partir. Et là-bas, si c'est ça que tu fais, ils vont plutôt dire « Tiens, il a peut-être du mal à s'organiser. » Alors qu'en Europe, en France, on a encore ce petit côté « Je montre que je suis là, j'ai bientôt, je repars tard, j'ai mes dossiers, etc. » Et c'est sûr que là-dessus, un management ricain scandinave est bien plus souple et c'est en train aussi d'influencer en Europe. Ça vous va les amis? Ça te va Pierre?
Parfait.
Allez super, je vous propose de parler des trois sorties que j'ai retenues. Franchement il y en a pas mal. J'ai hésité à parler de la légende Blue, la Jordan 11 qui a été en shock drop aujourd'hui, qui est resté moins longtemps que la Black Cement de la semaine dernière, et je fais une petite...
Quelle surprise.
Ouais, une petite dédicace à nos amis de Elle est bonne sa paire, parce qu'ils en ont aussi parlé, je crois, le lendemain de nous, et ils ont aussi un petit peu taillé Nike. Mais là, j'ai choisi trois sorties, dont une qui sort le 5, à un prix assez élevé, 550€, mais en face de ça, vous pourrez obtenir une Nike Air Max Plus, c'est l'ATN, hein, la requin, arborant de magnifiques diamants,
cristaux,
cristaux zirconium.
Voilà, c'est zirconium que je cherchais, de Swarovski. Moi, j'ai choisi le modèle noir. T'as un modèle un petit peu plus coloré qui est sorti. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont placé les... Alors, vous vous dites comment pas des diamants, mais des...
Cristaux.
Des cristaux.
Des cristaux de zirconium.
Ouais, vraiment sur le côté requin, tu vois, sur tous les petits empiècements plastiques qu'on pouvait retrouver. Je trouve vraiment sur ce modèle full noir que c'est très, très réussi. Par contre, le billet d'entrée, 550€. Waouh, c'est dur. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis?
Moi, personnellement, je trouve que l'idée est bonne. Et je pense qu'elle est bien réalisée, en vrai. Après, quand je vois la chaussure, je vois Swarovski, la première personne, on va dire, qui pop dans mon esprit, qui pourrait porter ça. Alors, c'est sûrement être discriminatoire ce que je veux dire, mais pour moi, c'est une meuf de chicha.
Ok.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Alors là, je m'y attendais pas du tout.
Je vois pas ça porté de manière stylée.
Je sais pas s'il y a beaucoup de chicha, de bar chicha à Paris, mais nous en Alsace on en a quelques-uns. Et
ça me fait vraiment penser à ça en tout cas.
Ouais, il y a ce petit côté un peu racaille.
Le bling bling léger, ouais, tu vois, comme la personne qui va avoir du Swarovski sur les ongles, tu vois, ou sur la dent. Là, quand je vois ça, ça me fait penser à ça.
Ok.
C'est...
Moi, je trouve la réalisation bien, bien faite.
La réalisation est bien faite. Franchement, je suis d'accord avec toi. C'est bien fouté. L'idée est bonne. Le public, pour moi, il est bien précis, en tout cas, on va dire.
Ouais. Ah, pour moi, c'est pas du tout les... C'est... Ça reste un public féminin.
Ouais.
Mais je vois le même public que pour la VaporMax CDG.
Ok.
Ouais, tu vois.
Comme
donc, ça va être... de la ouais des meufs de
ouais, c'est fashion
très très réducteur de dire ça mais des meufs qui font hyper attention au moindre détail où il faut mettre un strass sur la dent faut mettre un petit truc mais pas des meufs de chicha tu vois juste des meufs qui font
comme
hyper
c'est péjoratif
attention.
Bah c'est ultra péjoratif hein, je reconnais
bah, des meufs je suis désolé c'est cliché
c'est des clichés je suis d'accord
c'est
aussi
pas, on parle pas de toutes les nanas qui fréquentent les chichas mais c'est il y a quand même un groupe
un archétype
si
on va dire
si tu fais une étude sociologique dans une chicha tu, voilà ethnographique même tu peux repérer certains groupes
Et il voilà. y a un style qui est lié à cet environnement, on va dire, ou cette façon de faire. Et moi, j'associe en tout cas la TN déjà à ça. Là, avec les diamants Swarovski, je trouve que c'est le côté plus. Et quand tu parles justement de la meuf fashion qui va faire attention à tout ça, moi, la chaussure, même si elle coûte 550 balles, ça me fait penser justement à la meuf qui veut être fashion, qui veut faire attention à tout ça, mais qui n'a pas forcément le budget.
Et donc là, tu touches pas la cible.
Ouais.
Voilà, ah, c'est pour ça que tu parles de budget.
Moi, je trouve c'est une meuf stylée parisienne qui achète ça.
Totalement d'accord.
Oui, je pense.
Vraiment, que... c'est le type de fille qui veut se démarquer des autres. Un peu comme tu sais la paire hype de Salomon.
Ouais.
Tu vois. Voilà. Pour moi, c'est ce type de profil là qui va chez The Next Door.
Comme une ZX Gucci.
Voilà. T'as tapé dans le mille. Ouais. C'est exactement c'est ça. Tu vas pas porter une gazelle comme les autres, ça va être la gazelle Gucci ou
je sens pas gazelle. Il y a eu de la gazelle, il y a eu de la samba et les ZX.
Voilà,
moi, j'ai
c'est
beaucoup
ce
aimé.
Profil-là qui va le toucher.
Et moi, ça justement, ça me fait typiquement penser à, je crois que c'était à un an ou deux ans, il y avait une espèce de mode qui revenait en mode high fashion, je précise, de chemise avec des gros imprimés dessus. Moi, littéralement, dans un magazine, je crois que c'était GQ ou quoi, la chemise à 2000, je sais pas trop quoi. J'avais la même que j'ai achetée au marché il y a 15 ans. Et ça me faisait cet effet-là, tu vois, ce côté où on reprend des pièces qui étaient cheap à l'époque, on les met, on met des diamants dessus pour faire joli, et ça fait fashion, quoi.
Et ça marche. Ouais, la TN, et Pierre, je sais pas si t'as vu et si tu surveilles un petit peu ce qui sort, mais ça t'évoque quelque chose, une association Swarovski sur une Air Max, Air Max Plus ?
Ouais, je l'ai vu passer, et effectivement, moi, je la trouve belle. Je sais pas qui ça vise, pour être honnête, j'ai du mal à m'imaginer qui pourrait lâcher 550 € pour la mettre même dans un bar à chicha. Honnêtement, je le sens pas trop. Mais ce qui est étonnant, c'est que Swarovski s'associe à Nike et encore plus sur une TN. Enfin, il y a 15 ans, c'était inimaginable. Et on voit bien à quel point les ponts sont créés entre les marques de sport Nike et puis les marques de luxe, vraiment de limite de joaillerie en fait, enfin,
ouais, complètement.
Pour créer des collabs limite improbables. La TN qui était tellement identifiée chaussure de racaille il y a 20 ans et qui est aujourd'hui en train de revenir en force. Swarovski qui met sa patte là-dessus. Pour moi, c'est vraiment le symbole de ces passerelles entre le monde du luxe et du sportswear.
C'est très bien résumé et nous, c'est ce qui nous fascine. Tu vois, il y a 20 ans, quand tu viens un petit peu d'un quartier, que tu voulais t'acheter un jogging ou un polo Lacoste ou une casquette, tu étais déjà regardé un petit peu de travers. Et aujourd'hui, on voit là que le pont, ça y est, on est quasiment sur une autoroute entre les deux. Quoi. Et voilà.
Oui, clairement.
Et ça c'est vraiment très très fascinant. Allez, j'ai sélectionné une New Balance grise en hommage à celle dont on parlait tout à l'heure. C'est la 991 V2 qui sort en Made in UK grey et orange. Je crois que c'est une de mes couleurs favorites pour les baskets. New Balance 991, je trouve le shape magnifique, très très réussi, la qualité des matériaux et avec cette petite touche d'orange qu'on trouve dans la semelle intermédiaire, et ben pour reprendre Jaime, c'est ben New Balance, c'est toujours juste quoi. C'est toujours juste.
Ouais, je pense
exactement,
que
tu as totalement raison. Ouais.
C'est bien résumé. La chaussure est belle. Le shape est fou quand même.
Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la précédente qui est sortie une semaine avant, je pense. Ouais. La New York Knicks de Kiss. Très belle aussi.
Mais toujours une grande réussite. Ça vous va? Tu veux réagir sur cette New Balance? J'ai mis ce que je la trouvais belle, tout simplement, Pierre.
Ouais, bah, je la trouve belle aussi. Voilà. Et comme tu dis, je trouve que New Balance, ils ont une ligne, ils arrivent à rester dans leur voie et ils ont une vraie identité, on les reconnaît tout de suite et je trouve ça bien qu'ils se mettent pas à essayer de copier ce qui se fait par ailleurs et à rester vraiment authentique.
Ouais, complètement. Et en plus, je pense que ça doit être difficile pour une marque de pas céder à toutes ces collabs, à tous ces designers qu'on pourrait faire venir. New Balance, ils vont en sortir quelques-unes dans l'année à des tarifs toujours normaux, enfin par rapport aux tarifs qu'ils utilisent, assez normaux, et c'est toujours très qualitatif et les colorways sont toujours très très bien choisis. Ça vous va? Allez, yes. On passe la dernière avant de parler de ton bouquin, Pierre, c'est la Nocta. On parlait de cette marque qu'on voyait un peu retomber en collab avec une Air Force One. Et là, moi, c'est beaucoup les coloris pastels qui m'ont vraiment plu. On a du violet, on a du jaune très très pâle et un blanc avec cette particularité d'avoir changé le Nike Air qu'on trouve au niveau de la semelle intermédiaire par une autre signature et notamment la signature Nocta. Alors, le colorway est très chouette. Pourquoi il y a besoin d'en faire une collab? Ben, je ne sais pas, parce que la Air Max One marche toujours, c'est un banger.
Surtout en plus, une...
J'ai dit quoi, Air Max Air Force One marche
c'est
toujours.
Surtout, alors je pense que ça devait être quelque chose qui devait être dans les fourneaux depuis un moment,
ouais,
mais tu dis oui, faire une collab, j'ai envie de dire surtout en ce moment.
Ouais.
Parce que Drake, en vrai... Il n'est pas dans les meilleures dispositions, on va dire, à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent de sortir maintenant une collab avec Drake.
Nocta. Drake, je ne l'associe plus du tout à Nocta, moi.
Ben, moi, par contre, tout ce que j'ai vu autour de cette chaussure, il y avait toujours la tête de Drake à côté.
Ah ouais?
En tout cas, sur les réseaux, tu vois. Vraiment, moi, j'ai vu partout.
J'ai plus rien vu entre Nocta et Drake, moi.
Non, mais comme il dit, sur les réseaux. Mais après, Nike ne communique pas avec Drake, c'est vrai.
Ouais. Tu regardes du côté de Nike, il n'y a rien du tout.
Ouais, ils se sont détachés de lui.
Ce qu'on disait sur Nocta, alors celle dont on parlait il y a 15 jours marche très bien, la Hot Step. Là, on est sur du plus classique. Par contre, le choix colorway, très chouette. Un peu inspiré pastel Ronnie Fig, je trouve. C'est assez rare sur des Air Force One qui cartonnent. C'est aussi quelque chose que tu as vu passer, tu voulais réagir, Jaime ?
Moi, je disais, Gislain, il a raison, c'est peut-être pas le bon timing, parce que là, tu la sors au printemps, c'est peut-être un peu mieux, non ?
Ouais, en plus, ils mélangent les colorways et hiver. Et
l'actualité Drake est pas ouf.
Voilà. Et vraiment pas folle, quoi.
En plus, toi, tu penses que ça porte la paire de l'associer à Nocta, Pierre ?
Alors, honnêtement, je viens de googler, quand vous parliez, je n'avais pas vu passer. Ouais, après, ça fait partie, même s'il est un peu controversé, je pense que ça fait toujours du buzz aussi. Il a quand même une fanbase aussi qui est toujours forte, Drake. Donc, je pense que ça va quand même toucher du monde et que, voilà, et que ça fait partie de, voilà, des collabs indispensables d'avoir ce genre de grandes personnalités un peu mainstream, même s'ils sont un peu controversés, mais qui permettent de toucher très très large, en fait.
Ouais, c'est pas faux. Oui. Tu vois, des fans d'Air Force One peuvent peut-être se rapprocher de Nocta aussi, et inversement, pourquoi pas. Ça vous va pour l'actu ? On a été plus long que je pensais. Hein.
Ouais.
Et place à...
J'ai une petite question pour Manu. Manu, est-ce que Kendrick était toujours avec Nike ? Non.
Non, je pense qu'il a plus de contrat.
À un moment, ils avaient collaboré avec la Cortez.
Sur les Cortez.
Il était chez Reebok, il était chez Nike. Je suis sur l'Insta de Nocta, il n'y a plus de traces de Drake. Hein. Donc, il n'y a que les réseaux.
Sur société.com, peut-être qu'il est encore juste départ.
mais je crois que c'est même une officielle de chez Nike qui avait dit qu'il n'y avait plus réellement de lien entre les deux. Quoi.
Parce que même... il me semble que oui, c'est ça aussi, le fait qu'il y ait écrit Love You Forever, que c'est une Nocta Certified Lover Boy, c'est
pour... Oui, c'est le design qui appartient à Nike. Voilà. C'est le design qui appartient à Nike, mais Drake n'a plus rien à voir avec ça. C'est comme Yeezy qui continue, enfin, c'est comme Adidas qui vend des Yeezy sans Kanye West.
Ok, ça marche.
Ouais.
Voilà pour le parallèle. Allez, on va parler de l'Odyssée des sneakers, la réédition enrichie de ton bouquin, Pierre. Merci, moi j'ai été ravi de l'avoir entre les mains, j'ai dévoré les nouveaux chapitres, et surtout j'avais dévoré la première version où tu répondais à un besoin que j'avais en tant que fan de basket, et comme c'était ma passion, c'est d'avoir un livre où on lit quelque chose, où c'est pas un résumé d'images et de petits descriptifs. Et ça, vraiment, je trouve que ça fait beaucoup de bien à une bibliothèque et à ce qu'on peut connaître et avoir besoin autour de la basket. Peut-être pour nos auditeurs qui n'étaient pas là, je crois que c'était en 2018 ou 2019 ta première édition, Pierre.
2019, oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, qui t'ont pas connu. Comment t'as eu envie de parler de cet objet et d'en faire un livre? Et peut-être, est-ce que ça vient de ta propre histoire et elle est peut-être liée à la sneakers?
Alors moi, en fait, je suis journaliste à la base, je suis journaliste économique aux Échos, et j'ai couvert pendant longtemps les groupes de sport, enfin le sport business, et donc j'ai vu monter l'essor des sneakers auprès de ces groupes-là, les Nike, Adidas, Puma, etc. Et à force de parler avec tous ces gens de l'industrie, en fait, j'avais plein de matières, des coulisses de cette industrie de la basket que j'avais envie de re-raconter vraiment en grand format, dans une sorte de grand reportage qui parle à la fois des baskets de manière générale, comment elles sont devenues la chaussure du quotidien à travers le monde pour toutes les générations, hommes, femmes, enfants, vieux, dans tous les pays du monde, et puis de faire des focus aussi sur des histoires fortes, aujourd'hui c'est très connu, mais la rivalité entre Adidas et Puma, mm-hmm. Au départ étaient deux frères qui ont créé la même boîte, qui ont commencé à avoir du succès ensemble, puis qui se sont déchirés pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'un a créé Adidas, l'autre a créé Puma, ils ont coupé la ville où ils étaient en deux, vraiment avec les ouvriers qui étaient chacun dans un clan.
Ouais, et dans un club vraiment, de foot, hein.
Avec club de foot, avec les boulangeries, les bars, soit Puma, soit Adidas. Et cette histoire-là, elle est folle, et que leurs enfants après eux ont repris le relais et en fait cette rivalité très vénéneuse, en fait chacun se tirait dans les pattes, ça a créé une émulation énorme, et c'est aussi ça qui a créé, qui a posé les bases du marketing autour des baskets telles qu'on le connaît aujourd'hui. Donc voilà, en fait ce genre d'histoire, je trouvais que c'était marrant de le raconter en mode pas seulement anecdote, vraiment de fouiller, d'interroger des gens et de donner la parole à tous ceux qui font l'industrie de la basket aujourd'hui, que ce soit dans les grands groupes, que ce soit du côté des consommateurs, des designers, des vendeurs aussi, des médias, etc. Enfin, vraiment faire un tour d'horizon. Et comme tu disais, il existe déjà beaucoup de livres en mode encyclopédie qui sont très bien faits, mmh. avec des gens qui ont vraiment une connaissance énorme de tous les modèles et qui ont vraiment bossé pour et vraiment identifier chaque détail, chaque histoire. Moi, je suis pas légitime là-dessus. Je préfère me concentrer sur mon boulot de journaliste, qui est plutôt de raconter de l'histoire derrière la grande histoire, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet il y a 5 ans.
Génial. Génial. Et tu t'es senti rapidement soutenu dans la rédaction de ce projet? Est-ce que d'abord on cherche une maison d'édition, ou tu étais déjà plugué avec toutes ces choses?
Alors c'était mon premier livre. J'ai eu la chance de rencontrer Alexandre Chabert aux éditions Latengo,
ouais.
Qui est une maison d'édition à Paris et qui a tout de suite cru au projet, en fait, quand j'en ai parlé, qui m'a dit on fonce, il y avait une tendance autour des sneakers il y a 5-6 ans, mais on était vraiment pas encore complètement au pic, et ça répondait à un besoin d'apporter un point de vue un peu différent de ce qu'on pouvait trouver en librairie, et donc je le remercie d'avoir cru à ce projet-là.
Ouais, génial. Et t'es content de l'accueil de la première édition et de cette nouvelle édition?
Ouais, la première édition, l'accueil était très très bon. En fait, je fais partie du système médiatique, je pense que ça a aidé aussi d'autres médias de se dire on va inviter un journaliste qui va nous parler des baskets. Pour ceux qui n'y connaissaient pas grand-chose, et il y a 5 ans, certains médias découvraient un peu le phénomène des sneakers. Donc je pense que j'ai pu aider à leur permettre d'identifier un peu cette thématique-là. Et en fait, depuis 5 ans, donc, le livre continuait de bien se vendre. Mais on arrivait, on n'avait plus de stock. Et donc, les éditions Latengo m'ont proposé de refaire une nouvelle édition. Et cette fois, de la repimper un peu, avec plus de photos, une nouvelle maquette, vraiment pour la rendre plus...
La version 2.0, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Vraiment pour que même les gens qui n'y connaissent rien au basket n'aient pas besoin de chercher sur Internet chaque modèle.
T'as raison, Pierre. Parce qu'en fait, nous, on a cette déformation. Dans ton bouquin, quand je lisais le nom d'une paire, je la voyais, je la connaissais. Mais c'est vrai que j'ai plus recul qu'un novice. Il la voit pas, et c'est pour ça que quand on fait de la radio ici, on essaye beaucoup de décrire les chaussures. Après, chacun se l'imagine, et je trouve que ça fait partie de l'imaginaire de se le construire dans sa tête soi-même. Ouais, mais t'as raison, pour beaucoup qui ne connaissent pas trop, là, justement, dans cette nouvelle version, t'as souvent les baskets dont tu parles qu'on va retrouver en photo, dans les quelques pages autour du moment où t'en as parlé. Ça doit être un vrai plus pour les gens qui s'y connaissent un petit peu moins.
Ouais, et puis même les personnages aussi, je trouve que ça apporte quelque chose.
Ouais.
Certains personnages, on peut connaître le nom, mais les identifier aussi, ça apporte quelque chose. Et puis toutes les chaussures, effectivement, même moi, parfois il y a sur certaines déclinaisons, sur certaines collabs, c'est difficile d'identifier tout de suite qui est qui fait quoi. Donc ça apporte vraiment un plus, je trouve, et je suis super content du travail qui a été fait. Je passe un petit clin d'œil à Alison Perrier et Luna Osorio qui ont aussi travaillé sur ce bouquin pour tout ce qui est la partie maquette et recherche de photos.
Mm-hmm.
Ils ont vraiment fait un énorme boulot là-dessus pour trouver à chaque fois les bonnes images qui permettent d'apporter un plus. C'est pas juste une illustration.
Ouais. Est-ce que ça rajoute des difficultés de droit d'auteur pour utiliser les images?
Alors. Pour le coup, je ne maîtrise pas énormément le sujet.
Ouais, c'est peut-être la maison d'édition qui travaille là-dessus.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Après, je crois, à mon avis, hein, bien sûr, c'est qu'une supposition, s'ils ont pris des images sur Internet, normalement, c'est libre de droit, parce que tout ce qui est dans... une bonne partie des choses qui sont sur Internet sont
utilisables. Tu les prends.
Ouais,
ils sont
c'est
pas
ça.
Toutes libres de droit.
Oui, mais tu prends...
Non,
Google, quoi.
Oui, mais sur Google, tout n'est pas libre de droit.
Ouais. Tout est accessible, pas la réutilisation.
Ouais, c'est ça.
Okay,
et puis on a essayé de contourner aussi par moment en prenant des pubs, des pubs un peu emblématiques ou des images vraiment tirées de publicité qui marchaient bien comme Jordan et Spike Lee par exemple.
Ouais.
Ça permet d'apporter, c'est très très connu, mais ça permet d'apporter une petite touche vintage en plus aussi, des vieilles pubs qui peuvent être marrantes.
Mmh. Bon, et moi je le dis maintenant, un de mes chapitres préférés c'était la longue marche chinoise. Où vraiment il y a l'histoire de la basket, le transport de la basket. C'est un de mes chapitres préférés quand je l'ai lu pour la première fois. Et là, je trouve ça super intéressant parce que ton livre, il a évolué avec l'évolution qu'on a vécue. Nous, on a commencé en 2016. La première émission, c'était en septembre 2016 ou 17, ouais, quelque chose comme ça. Et il n'y avait pas encore la Yeezy, il n'y avait pas encore Kanye West. Et je trouve ça génial que tu aies pu rajouter des chapitres avec vraiment des nouveaux éléments sur le monde de la basket qui a vachement bougé depuis les 5-10 dernières années.
Ouais, et c'est ça qui est dingue, c'est que ça évolue très très vite. Et là aujourd'hui, je pourrais même refaire des chapitres. On parlait tout à l'heure des emojis et de Fortnite.
Mmh.
J'ai hésité à parler tout cet aspect-là, un peu du virtuel et de la mode des NFT qui est un peu retombée aujourd'hui.
C'est sorti aujourd'hui que Artefact, ça se cassait la gueule et qui commence à lever le pied avec Nike.
Ouais, exactement. Voilà, donc ça fait partie vraiment du ce monde-là. En fait, il bouge en permanence et c'était aussi pour ça qu'on voulait ressortir une nouvelle édition. C'était pour mettre à jour et apporter vraiment des éclairages en plus. On parlait de Kanye West. Mine de rien, il a quand même révolutionné le monde des sneakers en l'espace de quelques années et raconté à la fois son ascension et sa chute, et qui sont toutes les deux aussi spectaculaires l'une que l'autre. C'était un moment indispensable évidemment, je ne le connais pas personnellement, mais essayer de rentrer un petit peu dans son état d'esprit. Ouf. En faisant parler ceux qui ont travaillé avec lui, voilà, pas forcément lui, mais parce que ça doit être un peu labyrinthesque dans sa tête.
Aussi,
ouais. Mais ça permet, de de mieux le cerner, à la fois le côté vraiment brillant de ce mec-là en tant que designer, et puis le côté sombre avec toutes les affaires de harcèlement, voire d'agression sexuelle qui lui traînent aux fesses aujourd'hui. Plus toute la partie antisémite, enfin vraiment voilà, c'est ce mec-là est vraiment un personnage indispensable à raconter, donc j'essaie de raconter ça. Et voilà, il y a Steve Smith qui en parle, voilà, qui est un des derniers vraiment à être encore avec
lui.
Ouais,
tu l'as pas tourné le dos, ouais, exactement.
Ouais, c'est ça, donc qu'un mec comme lui continue de lui faire confiance jusqu'au clash peut-être. Ça dit aussi à quel point Kanye West a réussi à s'imposer comme l'un des grands personnages de cette histoire de la basket.
Ouais, vraiment. Et il y a encore quelques autres chapitres. Alors très vite, les chapitres d'origine, c'est la Chuck Taylor avec l'étoile de Converse qui est la première basket, le procédé de vulcanisation. Après, tu parles des frères ennemis Adidas et Puma. Et je pense que ouais, il y a eu du rififi entre les deux pendant la guerre. Et je me demande même si on est au courant de tout, parce qu'à mon avis, il y a encore des histoires de fratrie entre les deux qui sont séparés. Et aussi beaucoup sur ce chapitre de l'exception culturelle française que je trouve très intéressant. On parlait de la TN tout à l'heure. Pour moi, elle fait aussi partie un peu de cette... je trouve qu'il y a des baskets qu'on peut assimiler à certaines régions, et la TN était très française. On retrouve la 97 qui est énormément en Italie, et on va retrouver tu vois, par exemple, les origines des Samba vers les hooligans à l'époque londoniens qui portaient ce style de shoes. Et je trouve ça très intéressant d'avoir aussi zoomé sur cette culture de la sneakers française.
Ouais, je voulais, ça faisait partie des lacunes qu'il y avait dans le premier bouquin, de parler un peu de la culture sneakers sous l'angle un peu culture pop.
Ouais.
La manière dont voilà, chaque tribu et chaque région a un petit peu influencé, c'est réapproprié cette culture sneakers. Et en plus, l'Alsace a une place.
J'allais parler de la Stan.
Voilà. voilà.
C'est le
et, voilà, c'est Adidas et l'Alsace, c'est vraiment une histoire à part entière, et il y a vraiment, voilà, c'était un des berceaux, enfin, de l'histoire française des baskets, c'est chez vous, donc ça faisait.
Ben ouais,
c'est important de souligner.
Merci de le dire, nous on se bat pour. on se considère comme étant une capitale de la sneakers en Alsace. Pour nos auditeurs qui nous écoutent leur voiture dans leur cuisine, etc., la Stan Smith a été dans les années 60 conçue et développée par Vernel Alvin, qu'on a eu la chance de rencontrer en visitant. D'ailleurs, Pierre, si une fois tu viens en Alsace, tu nous préviens un peu avant et on adorerait t'emmener à Dettwiller, hein, parce que nous on y allait, il y a toutes les machines. Il y a encore monsieur Werner Alvin qui lui était responsable de la production de la Stan Smith, qui vérifiait toutes les Stan Smith qu'on lui renvoyait quand il y avait des défauts, et il y a toutes les machines en fonctionnement et ils les font tourner au moins une fois par semaine pour être sûr qu'elles tiennent, et c'est vraiment à visiter, quoi.
Ah ouais, bah avec grand plaisir. Je savais pas que ça marchait encore. Enfin,
ouais, c'est le club du patrimoine de Dettwiller qui tient tout ça, avec un super président, et ils ont un petit collectif et ils se réunissent très très régulièrement dans cette ancienne usine qui est un peu réaffectée en musée. Et franchement, ça, bon, nous on adore la basket, donc forcément ça nous fait quelque chose. Mais tu vois vraiment l'origine, Stan Smith, les années 60, la superstar, première chaussure pour le basketball créée aussi et développée à Strasbourg. Le design de la Forum, fait par Jacques Chassin, s'était fait aussi à Dettwiller en Alsace. Et quand Jacques vient partager avec nous ses petites anecdotes, Patrick Ewing, toi t'es notre génération, ça doit te parler, il est venu se faire mesurer le pied par Jacques.
C'est ouf ça.
C'est
ouais,
fou,
c'est vraiment
fou.
Imaginez ce gars-là. Ouais, déjà pour entrer sous nos portes, parce que ça devait être compliqué.
Karim Abdul-Jabbar aussi.
Et Karim Abdul-Jabbar aussi.
Ah oui.
Ouais, et aussi, et là c'était plus dans le restaurant, parce que tu avais l'usine à Dettwiller et le magasin d'usine à Lamper Time, c'est le bled à côté de Dettwiller. Tout ça, c'est à moins de 20 km hein, de Strasbourg. Tu avais. T'avais ce grand restaurant, cette brasserie dans laquelle étaient venus aussi Peter Moore et Rob Strasser quand ils sont venus travailler avec Adidas.
Donc c'est vraiment l'épicentre, vraiment, il faut le dire. Voilà.
Région du talent.
c'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien dit. Mais on.
Et ouais. je précise que tu ne m'as pas payé en plus pour le dire, donc je dis vraiment sincèrement.
C'est vrai, c'est même vous qui m'avez envoyé le bouquin et merci pour ça. Après, bien sûr, bienvenue à Sneaker Town. Tu fais un zoom sur la basket, comment elle est à nos pieds, etc. Et un chapitre sur le Messi, Michael Jordan, qui fait popper pour moi Nike ou qui sauve Nike. C'est un peu le zoom. On a parlé de l'empreinte culturelle. La tribu des chasseurs de basket, qui est à mon sens un petit peu l'origine du sneakerhead.
Oui, c'est ça. Bah, c'est tout le marché de la revente en fait qui a explosé en quelques années, qui était méconnu. Et aujourd'hui encore, quand on dit à des gens qui ne sont pas dans ce système-là, on peut se faire de l'argent en revendant des baskets neuves. Souvent, on vous regarde avec des grands yeux. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Josh Huber, le fondateur de StockX, il y a quelques années, quand c'était encore vraiment au début. Et ce gars-là, il a un parcours dingue. Enfin, au départ, c'est un nerd, fan de petits programmes informatiques. Il se monte son site dans son coin pour faire mesurer les enchères.
C'était Campless. Moi, j'étais déjà abonné.
Exactement. Ouais. Et c'est devenu StockX, qui est aujourd'hui une multinationale qui pèse plusieurs milliards, qui s'est diversifiée bien au-delà de la basket. Voilà, c'est des parcours, en fait, derrière juste l'objet basket, en fait, il y a plein de parcours comme ça, super intéressants, qui racontent aussi l'histoire du monde, l'histoire de la société actuelle, de l'économie, enfin, on parle de culture, etc. Enfin, vraiment, ça permet de croiser plein de choses. Et moi, ça me tenait à cœur, justement, d'aborder un peu aussi les sujets peut-être un peu polémiques, qui sont peut-être moins mis en avant dans d'autres livres.
Ouais.
De dire aussi qu'il y a de la spéculation sur ce marché-là, et que tous les gens qui sont sur le marché de la revente, il n'y a pas que du pur collectionneur qui cherche seulement à se faire plaisir. Il y a des gens qui viennent pour faire de l'argent. Alors, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que ça...
On va ralentir un petit peu,
ouais, c'est ça, mais il y a eu ça aussi. Alors, ça ne veut pas dire que ça se résume à ça, mais je trouve important de le dire aussi, de dire qu'il n'y a pas que des aspects positifs, il peut y avoir aussi des aspects négatifs.
Oui, et nous, on l'a senti monter, hein, cette concurrence, où nous, on est très piqués à ça, où c'est devenu très, très difficile d'avoir la paire qu'on voulait dans l'année, parce que la plupart des gens savaient qu'ils pouvaient se faire un billet là-dessus. Et avec l'organisation marketing de la rareté faite par les marques, ça devenait hyper concurrentiel, quoi.
Et frustrant.
Et très frustrant. On a parlé de l'empreinte culturelle. Après, on a parlé aussi des tribus des chasseurs de basket. On a évoqué le cas de Kanye West et Mr. West. Et enfin, de la rue à la Fashion Week. Et ça, on l'a vu exploser ces 5-10 dernières années.
Ça, c'est incroyable quand même.
La sneakers est sur les podiums.
Oui, elle est sur les podiums et elle est dans les magasins de luxe. Aujourd'hui, vous allez chez Louis Vuitton, chez Balenciaga, qui est mis quasiment presque le plus en avant, et en tout cas chez Balenciaga, c'est les sneakers. Et c'est fou de se dire que des griffes de haute couture comme ça se disent notre produit star, ce sont des sneakers. Ça montre bien à quel point les sneakers ont colonisé vraiment l'univers de la mode. Et comment les grandes marques de mode se sont emparées de ce qui était un phénomène de rue pour le reprendre, mettre un bon prix bien taxé par-dessus, quitte à parfois copier des inspirations chez d'autres plus authentiques, et pour toucher une nouvelle clientèle de fans de sneakers de luxe.
Et justement, je me posais une question, alors c'est vraiment juste une question, par rapport à Balenciaga, je me demande même si c'est pas... la sneakers, de manière générale, qui a un peu changé toute l'image de la marque, parce que dans mon état d'esprit, en tout cas moi, j'ai l'impression qu'avant c'était vraiment donc la marque de luxe, et avec l'avènement de la sneakers, Balenciaga, j'ai l'impression que c'est devenu la marque urbaine de luxe, et j'avais le sentiment qu'avant c'était pas cet état d'esprit, et je pense, peut-être que je me trompe, que c'est uniquement dû à la sneakers en fait, et l'engouement que les gens ont pour les baskets, quoi.
Alors, c'est vrai que ça a contribué à complètement changer l'image de la marque. Il y a un créateur derrière qui s'appelle Demna Gvasalia, qui a changé à la fois, qui a importé à la fois des sneakers et puis tout le style sportswear aussi. Vraiment de reprendre les vieilles esthétiques des joggings des années 80, 90.
Umbro et tout ça là.
Ouais, exactement. Et en fait, il a injecté en fait cette identité-là un peu contre-culturelle chez Balenciaga. Et ça a très très bien marché. Et ça a donné un énorme boost à cette marque-là qui était vue comme une maison de haute couture, je vais pas dire traditionnelle, mais un peu.
Oui, on va dire si t'as l'argent, quoi. Tu vas prendre du Louis Vuitton plutôt que du Balenciaga, quoi. C'est un choix annexe.
Et maintenant, c'est ça. Et maintenant, c'est devenu vraiment la marque, une des marques qui cartonne le plus du groupe, dans le groupe auquel elle appartient, quoi.
Ouais, et c'est assez fou parce que pour moi, la basket et la sneaker, c'était réservé à un équipementier pour l'amélioration du sportif. Mais par contre, quand on va créer un design chez Balenciaga, il y a moins de sport qui est inspiré là-dedans. Et pourtant, on est sur une tendance sneakers, cool et urbaine.
Et avec le choix quand même de se dire, on se démarque vraiment des autres marques de luxe qui font, des modèles très classiques. Vraiment de faire des esthétiques qui choquent les yeux, quoi. Vraiment,
parce que je me rappelle la toute première collab de Kanye qu'il avait fait avec Vuitton, il me semble. C'est vrai que la basket est assez basique, en fait. C'est pas ce qu'on voit chez Balenciaga aujourd'hui, quoi, en tout cas.
L'idée, c'est de pas prendre de risques. C'était vraiment de dire, on y va, on met un petit pied dedans, on reste sur des lignes un peu, des esthétiques vraiment classiques qui vont pas choquer. Et Balenciaga a fait vraiment le choix inverse de dire non, nous aussi on y va avec notre propre idée, on choque, et le choc ça fait du buzz, le buzz ça fait parler de la marque, et pour peu que ce soit bien relayé derrière,
ça suffit.
Et ben c'est jackpot, et donc c'est une histoire aussi de marketing et de comment on nous vend aussi ces chaussures-là.
T'as très bien raison.
On pourrait considérer comme très très moche,
Les triple S. Hallucinant. Personne court après son tram pour le rattraper avec une triple S. On a vu, il y a un autre chapitre sur la quête de la chaussure qui court vite. C'était la phrase qu'on utilisait tous étant gamin, etc. Il nous reste 4 minutes, Pierre. On n'aura pas tout le temps de développer.
Pas grave, achetez le bouquin, comme ça vous aurez plus le temps vous-même de développer.
C'est un bon vendeur, Gislain. Très, très bien. Le faux, la fripe et le truand, très intéressant. Comme la longue marche chinoise, c'est hyper intéressant. On parle de grey market, de ces baskets qui sont produites peut-être même dans les mêmes usines, etc. Moi j'ai même vu des choses où des gens qui voulaient les revendre ou avoir des leaks et des informations avaient des gens placés carrément dans les usines, parce que l'origine elle est là-bas, quoi. Le modèle, ça fait 2 ans qu'on leur a envoyé, ils commencent à
tout
le produire.
Tout est fait là-bas, quoi.
Tout est fait là-bas. Ça, j'ai trouvé hyper intéressant, Pierre.
Bah merci, et moi j'ai eu la chance de visiter quelques sous-traitants des grandes marques en Chine, et c'est vrai que c'est à la fois impressionnant de voir la taille de ces usines, de voir à quel point ils travaillent avec tout le monde dans le milieu, pour les plus grands, et puis de voir aussi, de raconter cette évolution. On a tous en tête, pour les plus âgés, les scandales des années 90,
sûr,
les conditions de fabrication, et comment ces scandales-là ont mené aussi, ont fait bouger les marques. On est très très loin aujourd'hui d'être exemplaire, mais ça a quand même fait bouger le secteur, et aujourd'hui les conditions de fabrication ont beaucoup changé en Chine, mais on s'aperçoit qu'il y a des délocalisations aussi en Chine aujourd'hui, puisque la Chine devient un peu trop cher. Donc les grandes marques vont au Vietnam, en Indonésie, donc c'est une sorte de cycle aussi qui se répète, avec à chaque fois des affrontements sociaux, etc. Donc c'était important de le souligner aussi que derrière ce côté cool de la basket, il y a aussi des gens qui les fabriquent. Et comment on les fabrique, ça a des conséquences.
Clairement. Et le dernier chapitre, conséquences, empreinte carbone, etc. Et ton dernier chapitre finit par la French Touch écolo. Et c'est vrai qu'en tant que Français, je ne m'en rendais pas compte que c'était aussi français, ce côté un peu Veja. Et je te remercie, Pierre, parce que souvent Veja, je l'associais plus à une marque éco-responsable, où là-dessus, j'avais quelques doutes, le fait de faire produire en Amérique du Sud. Et en fait, tu l'expliques très bien dans ton bouquin. C'est d'abord une marque de commerce équitable.
Oui, c'est ça. Leur modèle, c'est vraiment le commerce équitable.
Exactement.
Comme pour le chocolat qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. C'est du commerce équitable. Ils ont une dimension écolo. mais la base c'est plutôt commerce équitable. Et voilà, il y a beaucoup de marques, enfin de jeunes marques françaises en tout cas, qui essaient d'être sur ce créneau-là de l'écologie. Et donc voilà, j'essaie d'apporter un petit focus, d'expliquer un petit peu c'est quoi une basket écolo, est-ce qu'on peut vraiment faire une basket écolo, et est-ce que voilà, l'empreinte carbone des baskets, à quoi est-ce que ça représente, et puis comment ça peut aussi, comment nos comportements peuvent influencer voilà, cette industrie-là.
Voilà, et donc la seconde main aide beaucoup. Il nous reste 30 secondes.
Je voulais juste dire par rapport à ce sujet, je vous le dis à tous, profitez-en sur Netflix, il y a un petit documentaire par rapport à ça, où il y a l'ancien président de Adidas qui parle, tout ce qui est écologie, mais là c'est plus par rapport aux vêtements et tout, mais on parle de la basket. Et l'intervention de l'ancien président d'Adidas est assez intéressante. Voilà.
Merci Gis. Pierre, merci beaucoup.